préfet demandant l'annulation des manifestations dans l'Aude comme au plan national est un communiqué qui n'a pas une force coercitive, c'est-à-dire que ce n'est pas une interdiction. Hein. Chaque organisateur assume la responsabilité de maintenir ou non sa manifestation. Et donc, compte tenu de cette donnée, compte tenu que nous n'étions pas dans l'illégalité en maintenant, nous avons pris la décision de maintenir. Donc, l'association de marque-page et aussi les intervenants invités à cette journée, parce qu'il nous apparaît que, deux choses. Il nous apparaît que face aux actes barbares de ces terroristes, enfin, je ne sais pas comment on peut les qualifier d'ailleurs, il est important de ne pas reculer, de ne pas concéder sur la pensée, sur des lieux où l'on peut penser ensemble. Autrement, on leur laisse la victoire, d'une certaine manière. Ça, c'est la première raison. L'autre raison, elle est aussi très importante, et elle va orienter un peu le contenu de l'après-midi, c'est que le thème de cette journée, la Méditerranée, l'exil et le royaume, le cimetière, ça fait bien sûr allusion d'une façon majeure et centrale, et grâce à l'œuvre donc de Lina Prosa, au drame des réfugiés et des noyés de la Méditerranée, Lampedusa. Et du coup, on ne peut que se dire que le drame des réfugiés venant de Syrie, d'Irak et autres, c'est l'autre facette de ce qui se passe à Paris en ce moment. C'est-à-dire que c'est les deux facettes de la même question. La question que je ne vais pas commenter, ça serait trop long et puis ce n'est pas le sujet à chaud maintenant. Voilà. Simplement pour dire que le contenu de cet après-midi est un peu modifié. Il sera question de ce qui est dans le programme, mais en tenant compte de ce qui s'est passé cette nuit à Paris et qui n'est que la continuité de ce qui avait inauguré tragiquement cette année, les événements de janvier. Voilà, donc vous découvrirez au fur et à mesure les changements du programme. Sachez qu'il... Donc, en particulier, dans un premier temps, on modifie déjà l'ordre, c'est-à-dire qu'on commence par une lecture par Mélanie Traversier, deux passages seulement de Lampedusa Snow, qui est le second volet, et que Lina Prosa va mettre en perspective pour que vous puissiez resituer ces passages dans l'ensemble. Et ensuite, il y aura une conversation à laquelle se joindra aussi Sylvain Prudhomme, qui est là, qui devait intervenir en troisième temps, par rapport à la question des deux rives de la Méditerranée, du Mare Nostrum, à la fois monde commun et monde séparé, qu'il évoquera, et notamment à partir d'un de ses livres, qui est La Vedi Bahi, qui est un livre qui, à partir d'un parcours familial, évoque justement cette question de la Méditerranée comme trait d'union et aussi séparation. Voilà, donc Sylvain se rejoindra après à la conversation. On inclura dans le contenu de l'après-midi une lecture aussi par Mélanie, parce qu'on ne peut pas ne pas rappeler cela, du très beau texte que certains ont pu déjà entendre à un banquet d'été, de Mathieu Riboulet et Patrick Boucheron, Prendre date, qui, d'une certaine manière, avec une lucidité parfaite, nous pouvait nous préparer à ce qui se passe là. Quoi. Voilà. Je ne sais pas si Jean-Michel, en tant que président du marque-page, tu veux ajouter un mot d'introduction aussi à la journée ? Non ? D'accord, voilà. Bon. On vous propose donc de commencer tout de suite par la lecture, non, par la mise en perspective, voilà, de Lina Prosa. Donc Lina Prosa, hein, qui est dramaturge, qui vit à Palerme en Sicile et qui est venue spécialement pour cette journée et que nous remercions très vivement d'avoir accepté de venir jusqu'ici pour évoquer cette question que je laisse en suspens. Voilà.
Okay, On va parler plus après la lecture. Et seulement quelques mots pour vous dire que Lampedusa Snow, c'est le deuxième texte de la trilogie du naufrage. Le premier texte de Lampedusa Beach, vous l'avez écouté l'année passée. Et le troisième, Lampedusa Way, peut-être l'année prochaine, peut-être. Et alors, Lampedusa Snow, j'ai écrit Lampedusa Snow quand j'ai lu dans le journal que 100 africaines débarquaient à Lampedusa et n'ont pas trouvé l'accueil parce que l'accueil de la centre d'accueil était complet. Et les 100 africaines ont été amenées en montagne sur les Alpes et à 1800 mètres d'altitude et restaient là 6 mois en attendant le permis de séjour. En ce moment-là, j'ai trouvé la situation impossible parce que comme l'ambiance, la nature n'est pas la même qu'en Afrique. Alors j'ai écrit Lampedusa Snow et au centre du test il y a le Mahomet c'est le jeune qui attend. Et à un certain moment, il veut changer sa vie. Et c'est lui qui décide d'agir. Et à un certain moment, il commence à monter sur la montagne, à marcher sur la neige. Et voilà, Mélanie commence à lire le moment que Mohamed commence à monter vers la cime della montagne.
Je revois dans ma tête le départ. Saïf, c'est mieux à l'avant ou à l'arrière ? Saïf met sa main sur mon cœur. Mohamed, la place de notre cœur est derrière nous. Reste près de cette place. Assieds-toi derrière tout le monde. Regarde en arrière. Tant que tu n'arrives pas, devant, il n'y a rien. Saïf est comme le soleil sur la pierre, il convainc et il réchauffe. Si tu lui poses une question, tu as la réponse. La nuit du signal, c'est lui qui m'amène sur la barge. Il parle à l'oreille de quelqu'un. Je découvre que le vieux Saïf est le chef du quai. Chez nous, chaque quai du petit port a un chef. Je suis heureux. Les bâches parties de ce quai n'ont jamais fait naufrage. Celui qui part cette nuit est béni. Saïf me donne une carte postale et me dit « Tu te souviens ?»« Oui. » Je me souviens, sur la carte postale, il y a l'éléphant. Mefia l'a envoyé pour moi. Saïf ajoute. Quand tu arrives, ne te mets pas devant le gros blanc. Si tu veux te faire aimer, tiens-toi en arrière. Lui aussi a un cœur tourné vers ce qui se tient en retrait. Mais Saïf Ne sais pas qu'un gros blanc ne permet pas qu'un Africain reste dans son dos. Le gros blanc a des gardes dans son dos. Le gros blanc chef de la vallée a deux carabiniers et un drapeau dans son dos. Mon cher Seif, je ne serai jamais aimée. Mais en ton honneur, je me comporte comme si j'étais infiniment aimée. J'ai de la tenue là-haut sur les Alpes orobiques. J'ai froid, mais je garde la tête haute. Je suis partie du meilleur quai d'Afrique. Je fais tout pour faire valoir ce privilège. Pas pour passer devant un autre Africain, mais pour que le gros blanc comprenne que je suis important. Ne te fais pas de soucis. J'aime la concorde. J'aime la concorde. Un vieil alpin m'a assuré que j'y arriverais. Et le vieil alpin est honnête. Il m'emmène dans son refuge, plus haut qu'ici. Pour lui, la montagne commence plus haut. Je monte. Je me tiens derrière lui. Je chante avec lui. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se muoio da partigiano, o bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, tu mi devi seppellir, tu mi devi seppellir. Je me sens en paix avec toi. J'ai été derrière un gros blanc. Aie confiance, Seif. Ici aussi, ils aiment la liberté. Le vieil alpiniste est clair. Le vieux dit : la montagne est la maison de la révolution. Dans la neige ? La neige est importante dans la révolution. De quelle façon ? Elle te donne le temps de penser à l'action. Et l'affrontement ? L'affrontement ne sert à rien. Moi, je dis, comment fait-on la révolution ? Disparaître et puis réapparaître. Mes amis sont morts pendant la Révolution, peut-être parce que, chez nous, il n'y a pas de neige. Il est normal de mourir dans ces moments-là. Moi aussi, j'allais mourir. Plusieurs comme moi sont morts, même s'ils venaient de la montagne. Alors, c'est quelque chose de moins clair qu'on ne croit. Le vieux dit, se cacher, s'effacer de la vue du monde est la phase préliminaire. En somme, disparaître et puis soudain réapparaître. Tu peux le faire plusieurs fois. Si quelque chose ne va pas, tu retournes dans la montagne. Si tu es blessé, tu te replies dans la montagne. Sans les Alpes, cette terre ne serait pas libre. L'affrontement appartient à la guerre. Moi, je te parle d'embuscade. Parce que quand tu te bats pour la liberté, il s'agit de faim et non de pouvoir. Comporte-toi donc comme un animal affamé, si c'est la raison pour laquelle tu risques ta vie. Cela vaut pour les gros blancs ? On dit blanc. C'est vrai, on dit blanc, mais je le fais pour safe. Il aime vous appeler comme ça. Et il vaut peut-être mieux nous appeler blanchâtres. De blanc ici, il n'y a que la neige. Je dis. Ma révolution a donc été courte. Le vieux dit. Courte ? Sans la neige, peu de temps pour y penser. Oui, vous avez été lent, ou plutôt pas préparé. Si nous l'avions faite quand vous la faisiez, nous serions égaux ? Ça, j'en sais rien. Même chez nous, la révolution n'a pas changé grand-chose, et moi, je ne m'accorde aucun répit. Moi, je dis, mais pour quelle raison le chef de la vallée est-il si lent ? Il va dans une autre vallée, il change de vallée. Et moi, je peux changer de vallée ? Tu es toujours un réfugié. Ici ou là-bas, rien ne change pour toi. Mais dans la vallée d'où je viens, je suis déjà enregistrée. Ça, c'est la Val Camonica, elle est trop grande. Où puis-je aller alors ? Où puis-je aller ? Grimpe. Va le plus haut que tu peux. Il y a le col vers une autre vallée. Fais confiance à ton intuition. S'il y a une tempête de neige, n'aie pas peur, c'est comme une tempête de mer. Aujourd'hui, je le fais. J'ai décidé tempête de neige égale tempête en mer. Oui, je le fais. Je rentre à l'hôtel. Je cherche Hadid. Je veux le masser une dernière fois. Hadid n'est pas là. Les gardes du chef de la vallée sont venus le chercher. Hadid n'a pas 18 ans. Il a 16 ans. Il a été emmené avec les mineurs. Je vais le faire. Je change de vallée. C'est pas une fuite. C'est de l'action. J'y vais, Halakbar. Il neige sur la tristesse des mineurs, il neige sur mon courage alpin, il neige sur mes cils, il neige sur la vérité et sur mes ongles, il neige sur l'éternité et sur la sèche. Le froid dessèche ma bouche. Je bois. J'inaugure le changement par une gorgée d'eau. J'abandonne la bouteille comme les cyclistes au seuil de l'escalade. Je disparais et réapparais, je disparais et réapparais. Je me souviens du mécanisme. C'est ainsi qu'on fait. Le vieillard a raison. Et je chante. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina, mi son svegliato. Je chante et j'avance, je cherche justice, je cherche un chef de la vallée rapide qui, au nom de l'Italie, me dise « Reste, reste ». geste. Je monte encore plus haut, vers le col. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Rien de pire que sur cette barge remise à la mer après des années de rouille et de pourriture sur laquelle aucun marin professionnel n'aurait jamais parié. Safe, ce n'est pas de ta faute. Tu as étudié l'orientation, tu as choisi le bon quai. Sur cette charrette à 600, personne ne pouvait bouger sans la participation de tous. Toi, ça, tu ne le sais pas. Si un clandestin assis à gauche de la coque avait besoin de se lever, nous devions tous nous lever à l'unisson. Question d'équilibre. Le chef passeur lançait le mouvement. Les femmes étaient exclues, les femmes n'étaient que lest amassées au centre de la passerelle. Tous debout ! Et celui-là, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'était un homme avec une jambe en moins. Ils l'ont amené à bord en cachette. Il a été le premier à monter. Au signal du départ, le bateau a vacillé. Nous étions tous debout, sauf lui. Deux gars le prirent par les bras et le jetèrent à la mer. Tu savais ça ? Ici, au milieu de la neige, je suis autonome. Je bouge tout seul, je fais tout tout seul. Je tombe, je me lève, je me déplace. Tout dépend de moi. Je vais vers le haut. Je monte. À chaque pas, la neige est de plus en plus fraîche, mais toujours plus haute. Intensité de la chute proportionnelle à l'altitude. Mes pieds s'enfoncent. Je les ressors avec difficulté. C'est la même difficulté avec laquelle un naufragé s'efforce de ramener sa bouche à la surface de l'eau. J'avance, j'avance. Le ciel se fait de plus en plus bas. Ma chère Shaoba, si j'avais tes lunettes Hermès, la lumière éblouie. C'est la neige, elle resplendit. Je suis aveuglée. Je m'arrête. Je m'appuie sur une roche nue. Elle est nue parce qu'elle est en surplomb. Un grand oiseau m'aperçoit. L'aigle. Il tourne autour de moi. Je crie. Je ne suis pas Prométhée, mon foie est tout petit. L'aigle comprend. Il remonte haut dans le ciel. Il voltige léger, comme un linge noir commandé par Mahomet. Je m'agenouille comme je peux. Je cherche l'Orient. L'Orient est encastré dans le nuage qui plonge sur le sommet comme un astronef. Le nuage me capture et il me submerge. Je prie. J'arrive à prier comme un musulman. À peine un instant. Je bouge, ou peut-être pas. Je déplie douloureusement mon corps comme une aile brisée. Je tousse. J'ai mal à la poitrine, mes sécrétions sont congelées. La salive, la moelle, les larmes, même le pus dans l'oreille encore là depuis le débarquement à la neige. Les liquides internes congelés retournent le poids du corps. Je suis lourd. Je ris en moi-même, je me sens comme un éléphant. Je me sens un éléphant. J'avance. Je laisse un trou énorme dans la neige. La nouvelle neige le remplit aussitôt. Je me retourne pour regarder en arrière. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Adieu à ce qui se trouve derrière moi. Je retourne la tête vers l'avant, je dirige ma trompe vers le sommet, je m'efforce de barrir. De ma gorge sort un hoquet. Non. C'est quelque chose de plus. Un bêlement étrange coupe le silence. Une chèvre, là-haut ? La supposée chèvre se déplace rapidement d'une pente à l'autre. Je m'arrête. On l'appelle chamois. Lui aussi s'arrête. Il vient à ma rencontre. Il est blessé. Il chancelle. Il s'écroule devant moi, presque sur moi. Je l'embrasse. Il est chaud. J'ouvre mon sweatshirt, je mets en contact ma peau et son pelage. Je profite des dernières minutes de chaleur que la mort lui accorde. Ma poitrine est chaude. Enfin ! Je retire le bras qui serre le chamois. Ma main est tachée de sang. Le chamois est inerte. À présent, le chamois est moins chaud. À présent, le chamois est presque froid. Le chamois est totalement froid. L'empire est froid. Le chamois est froid. L'empire est froid. Le chamois est froid. L'empire est froid. Le vieil homme se trompe. Ce n'est pas comme une tempête en mer. Ici, ce sont les pieds qui commandent, pas les bras. Je n'ai pas de geste à faire, ni de voile à amener, ni de SOS à lancer. Le gel me domine. Je frotte mon nez avec mon coude. Je ne le sens pas. Je vacille. J'essaie de parler. Vers la nouvelle vallée, vivat ! La parole résiste plus longtemps que l'homme. Je m'auto-encourage, je m'auto-illusionne, je m'auto-éperonne. Il est ici le sommet qui consume le repas des sèches. Il est ici le sommet. Monsieur le chef de la vallée et de l'autre vallée, invente les slips de laine, réchauffe mineurs et majeurs invités à la table du sommet, qu'ils soient vivants quand tu leur diras « Restez, restez, restez !» Je m'arrête ici, sur le sommet de l'Italie. Je fais ma demande d'asile politique. Ai-je des guerres derrière moi ? J'ai les éléphants derrière moi qui ont fait beaucoup de guerres. Et je répète en silence, est-ce là le sommet ? Est-ce là le sommet ? Mon souffle émet de la buée. Ça signifie que j'ai encore de la chaleur en moi. Mais la buée se glace dans l'air. Du poids s'ajoute au poids. Le corps est arrêté. À jamais. Je m'appelle moi-même Mohamed, Mohamed, Mohamed. Je me tiens en compagnie. Et mon nom me revient à l'oreille comme l'écho d'un peuple. Que de monde! Après l'avalanche, les chiens des neiges fouillent la montagne à la recherche des survivants. Ils trouvent Mohamed enseveli sous la neige. Le chef du secours alpin cherche dans ses poches les effets personnels de Mohamed. Il trouve la copie d'une demande d'asile politique et la lettre d'adieu du suicidé blanc inconnu qui se trouvait dans cette poche. Le chef du secours alpin dit: c'est un réfugié africain qui s'est tué par amour et il y a des traces de sang. Emmenez-le dans la vallée, en hélicoptère. Septembre 2012, pour la première pluie de Palerme. Lina Prosa.
Merci Mélanie. Écoutez mes paroles aujourd'hui à l'étranger. C'est très émouvant pour moi. La journée est très significative, mais je pense que la poésie aujourd'hui nous donne la chance d'aller très loin, en portant à nous la douleur d'aujourd'hui, mais l'envie de réagir et faire la révolution. Comme Mohamed et comme les partisans italiens, qui a donné à tout le monde le grand bagage de la mémoire avec la chanson Bella Ciao. Et peut-être qu'aujourd'hui, on peut tout le monde chanter Bella Ciao, peut-être. C'est la chanson pour avoir l'énergie de combattre, de lutter contre quelque chose qui, oui, s'appelle l'ennemi, mais l'autre n'est pas l'ennemi. L'ennemi est une présence obscure, occulte, et nous sommes là pour défendre l'autre, parce que l'autre, c'est nous. Et je remercie Dominique, Jean-Michel, et cet lieu que là, aujourd'hui, quand j'ai vu le soleil, la beauté de la nature, j'ai dit que la nature nous donne toujours la possibilité d'avoir la conscience, d'aller au-delà de la tragédie, parce que la nature est universelle et appartient à tout le monde, et nous donne la motivation pour préserver la beauté. Et quand je dis la beauté, c'est l'être humain au centre de la nature, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous devons défendre avec la parole poétique, avec le théâtre, l'écriture, et les romans. Et l'histoire de Mohamed, Mélanie a commencé à lire la moitié du texte. Et à la fin, quand il a lu que la police a trouvé un billet de quelqu'un qui s'est tué par amour, c'est un moment significatif parce que l'homme riche qui s'est tué par amour, c'est nous qui sommes là dans le billet qu'il a écrit, et parce que c'est vrai que c'est nous qui aujourd'hui nous sommes dans le naufrage. La trilogie du naufrage, pour moi, c'est la trilogie de notre chemin aujourd'hui au présent. Et la figure de l'immigrant, pour moi, est très importante parce qu'elle me donne encore la mémoire de notre vocation à se bouger, à aller de l'autre côté, à chercher quelque chose qui nous donne la raison d'être là et d'avoir une, comment si c'est, une meta,
un moyen.
Et le naufrage de Chaouba in Lampedusa Beach, de Mohamed in Lampedusa Snow, et Lampedusa Way, c'est un naufrage très différent parce que ce sont les parents de Chaouba et de Mohamed qui arrivent à Lampedusa en cherchant des nouvelles. Mais Saïf, c'est les parents de Mohamed et la tante de Chaouba. Et il arrive à Lampedusa en attendant les capitalistes parce qu'il pense que le capitaliste peut donner, c'est le seul qui peut donner des nouvelles, parce que c'est le capitaliste qui connaît le destin de chacun de nous et de tout le monde. L'attente du capitaliste, c'est l'écriture du troisième texte. Et à la fin, le capitaliste jamais arrivera, jamais donnera de nouvelles. Et Saïf et Mahama vont décider d'être clandestins. C'est le naufrage de l'existence, le troisième. Et parce que pour moi, les migrants, c'est le miroir qui nous donne aujourd'hui la condition, notre condition. Et je suis sicilienne et c'est une condition très particulière être sicilienne, parce que la Sicile est au centre de la Méditerranée et la Sicile aujourd'hui est l'ensemble, le résultat de plusieurs civilisations, à commencer dalla civilisation phénicienne, grecque, romaine, arabe, normande. Il y a la liste espagnol, français aussi les italiennes, oui. Avant l'unité de l'Italie, nous avons eu la colonisation des italiennes aussi, mais aujourd'hui, nous sommes le résultat de la plus grande civilisation de la Méditerranée et nous connaissons très bien la valeur des mouvements de peuple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Sicile, c'est vraiment la championne d'accueil. Et surtout Lampedusa, la petite île, qui est encore plus à sud de la grande île que la Sicile. Et parce que la Lampedusa est plus à côté de l'Afrique que de la plus proche à l'Afrique que à la Sicile. Et aujourd'hui, Lampedusa est devenue la métaphore de quelque chose qui nous donne la possibilité d'interpréter, de lire l'histoire d'aujourd'hui, du présent. Et mettre en relation aujourd'hui Lampedusa avec Paris, avec la France, c'est une action pour moi très douloureuse, parce que la douleur de quelqu'un qui va mourir comme hier soir, plusieurs jeunes, beaucoup de monde, la douleur de la famille, la douleur des amis. Mais il faut penser que Lampedusa, aujourd'hui, il contient toute la France. J'aimerais vous dire que Lampedusa a les grands bras aujourd'hui pour embrasser la France, parce que tous les deux, Lampedusa en petite, et la France en grand, et une histoire très simile, comme c'est simile, semblable, parce que la France c'est la patrie de l'accueil, et son histoire est magnifique, parce que et aussi mon histoire, parce que Lampedusa, la trilogie du naufrage a été découverte à Paris ed est née à Paris. Et après, si vous voulez, je fais un petit raconte. Et Lampedusa, aujourd'hui, est la petite île de Lampedusani qui chaque jour, il fait front au débarquement. Chaque jour. Les médias, les journaux, la télé, dans toute l'Europe, ne donnent pas vraiment les nouvelles réelles chaque jour. Parce que seulement à travers les grands naufrages du 3 octobre des années
2013,
l'Europe a compris qu'il y a un grand problème aujourd'hui en Europe. Mais il y a 20 ans qu'il y a le débarquement à Lampedusa, et j'ai écrit Lampedusa Beach en 2003, pas aujourd'hui, le 2003, quand tout le monde ne connaissait pas les problèmes. Et quand j'ai dit que Lampedusa, la très petite île, c'est un rocher jeté sur la mer, et que Lampedusa embrasse Paris et toute la France, parce qu'il va vivre tous les deux un problème qui est simile, et qui redonne au monde une image très importante. C'est l'image de la liberté, c'est l'image de la fraternité et de l'accueil. Et j'aimerais aujourd'hui, avec notre parole poétique, penser que les massacres de Paris, comme tous les autres massacres qui arrivent aujourd'hui dans le monde, sont la manière d'un pouvoir inconnu Et qui utilise l'instrument de la paire et de la, du terreur pour faire nous comme otage. Nous sommes l'otage d'un pouvoir inconnu qui utilise notre âme, notre émotion, notre sentiment. Et pour être, pour nous fermer, pour devenir incapables de réagir et pour être manipulés. Parce que c'est vrai que les kamikazes qui a fait le massacre à Paris, c'est seulement le dernier point de quelque chose qui commence, je ne sais pas où. Et alors c'est vrai qu'il faut s'ouvrir encore plus devant une histoire comme ça, parce que c'est vrai que l'ennemi, le péril, il arrive quand la porte est très fermée, la fenêtre est très fermée, parce qu'il sait que nous sommes là fermés, parce que nous gardons notre privilège, quelque chose que nous ne voulons pas perdre. Et je trouve que c'est vraiment symbolique d'être ici aujourd'hui. Parce que cette abbaye est la maison du banquet qui travaille sur la pensée c'est magique, très magique, parce que seulement avec un travail poétique sur la pensée, nous pouvons vraiment
vaincre.
Excusez-moi, mais non parlo bene
français.
Vaincre la peur de quelque chose qui va au-delà de nous. Et je voulais continuer cette rencontre avec Mélanie. Pour parler della crise che porta la parola, una parola che parla di Lampedusa, che parla di un musulmano che va a cercare la valle della libertà e pur continuare sulla la metafora di Lampedusa, perché je ne veux pas parler tutta seule. Au début, avec toi, avec les autres, je ne sais pas, comme vous voulez.
Peut-être qu'on pourrait rappeler quelques éléments sur la généalogie du triptyque du naufrage que tu as évoqué. Donc cette trilogie Lampedusa Beach, Lampedusa Snow, Lampedusa Way, n'est pas une trilogie qui a été conçue comme telle, alors même qu'en apparence, on pourrait penser que ces trois textes théâtraux qui donnent la parole à des sans-voix, à ces migrants clandestins, à ceux qui sont morts en mer ou dans leur conquête de l'Europe, engloutis par les frontières entre le Sud, le Nord, l'Orient, l'Occident, ces trois textes proposent en fait trois temps de l'errance, trois temps du parcours du clandestin et de la femme clandestine combattante, avec Lampedusa Beach, qui est l'histoire du départ, qui donc s'achève sur un naufrage terrible au moment où Shaoba accède enfin au rêve, à Lampedusa. Ensuite, Lampedusa Snow, qui est celui d'une arrivée qui se solde par un drame tragique, puisque cet Africain qui est bien arrivé en Italie, à Lampedusa, a ensuite été envoyé, comme 100 autres, dans les Alpes, où il est assassiné par le froid de l'Empire. Et enfin, Lampedusa Way, qui est le récit de l'exil avorté, puisque Lampedusa Wake, qui est un dialogue et non plus un monologue, compte la quête dramatique des cadavres de ces clandestins dont on peut espérer qu'ils sont arrivés en Europe, mais dont on redoute qu'ils sont morts, qu'ils soient morts. Et donc ce sont des membres de leur famille qui sont venus à Lampedusa pour savoir où, comment trouver les corps. Et la question du cadavre, de ces morts qui n'ont pas de nom et qui parfois n'ont même plus de corps de sépulture. Et il faut imaginer aussi que tous ces cadavres qu'on retrouve sur les mers aux abords des côtes italiennes, égéennes, etc., il faut imaginer qu'ils ont, hélas aussi, leur pendant sur les côtes africaines. C'est que les côtes tunisiennes, régulièrement, retrouvent sur leurs plages des cadavres qui n'ont plus de sépulture, qui n'ont plus de nom, qui n'ont plus de forme humaine. Donc, on peut penser que c'est un objet qui a été conçu de manière cohérente en trois parties, trois scansions, trois moments tragiques qui nous permettent de comprendre comment, par la force de la résistance théâtrale, ce Mare Nostrum est devenu un locus tragicus, un cimetière qui nous est devenu familier, tellement quotidien. Et en fait, l'histoire, là aussi, est plus complexe, et aussi une histoire des échanges culturels entre la France et l'Italie. Donc, Lina, si tu veux bien revenir sur 2003, d'abord, avec Lampedusa Beach, et puis les années qui ont suivi et qui t'ont amené à écrire Lampedusa Snow, puis Lampedusa Way.
Alors, tu as parlé des cadavres, la recherche du corps, et la trilogie, c'est la métaphore de la condition contemporaine, oui, c'est vrai, mais sont des textes pour moi qui mettent sur le plateau la recherche humaine. Qui est très caractéristique de notre condition humaine. Tout le monde va chercher quelque chose au-delà de la réalité où il se trouve à vivre. Mais la recherche de Shawba, de Mohamed, de Saïf et Mama, c'est une recherche qui porte à changer la réalité, à changer le futur et la vision surtout la vision de la réalité. Et Shawba, je l'écris en 2003, car j'ai eu la nécessité de donner la voix à quelqu'un qui arrive chez nous sans nom, sans une histoire inconnue, la masse qui arrive à Lampedusa, c'est une masse d'inconnus, comme si c'était une masse anonyme. Et pour moi, ça, c'est une chose très douloureuse. Alors, j'ai dit non, je travaille avec la parole. Et j'ai besoin de donner la parole à quelqu'un pour lui donner la dignité, pour lui donner une histoire et les droits, surtout d'être avec nous. Parce que si tu as un nom, tu es quelqu'un. Quand tu n'as pas un nom, tu n'existes pas. Et le nom de la culture grecque, c'est quelque chose de très important, parce que par le nom, tu peux fonder une ville, tu peux fonder une personne. C'est comme quand nous, à la naissance, nous recevons par les parents le nom. Et seulement le moment où nous avons le nom, notre nom, nous avons le droit Nous avons une histoire et nous avons la dignité d'être humaine. J'ai donné le nom de Shoba à la femme qui va mourir dans le naufrage. Mais le naufrage n'est pas un naufrage de mer. J'ai dit dans le texte que la mer est innocente. Mais le problème, la cause est humaine. Parce que pendant la traversée de la Méditerranée, les passeurs ont décidé de violer la Shoba. Dans la lutte entre la jeune passeur et la vieille passeur, parce que tous les deux voulaient avoir le privilège de violer Shoba, alors, dans cette lutte, le bateau perd l'équilibre et c'est pour ça qu'arrive le naufrage. Alors, la cause est humaine, n'est pas la mer, pas la nature, il faut prendre conscience de ça. Et quand Shoba arrive à la fin, au fond de la mer, Shoba transforme sa mort dans une renaissance. Elle va faire un geste de rébellion, de révolution. Elle dit qu'elle va demander l'asile politique un point de mort. Et le lieutenant de la caserne de Lampedusa Beach dit répondre pour un point de mort, pourquoi? Mais elle demande. Faire la demande, l'incontrer,
qu'est-ce que ça vous coûte de me laisser l'asile politique?
Un point de mot. Elle demande encore, pourquoi ne faites pas quelque chose d'important? Faites quelque chose d'important. Venez en Afrique et venez vous demander l'asile politique en Afrique. Et seulement à ce moment-là, vous allez reprendre votre qualité, votre humanité. Et alors, Lampedusa Beach, c'est une histoire de rébellion, de révolution. Et c'est à nous que Shoba demande de faire quelque chose d'important. Et Lampedusa Snow.
Alors, Lampedusa Beach a donc été écrit en 2003. Il a été créé sur scène en 2012, enfin traduit par Jean-Paul Manganaro en français, parution donc chez Les Solitaires Intempestifs, et créé. En France et en français, avant d'être joué en italien sur une scène italienne. Donc, nous sommes en 2012, et en 2012 n'existe que ce texte-là.
Ah oui, c'est une histoire, je l'appelle la fable du théâtre européen, parce que je me sens émigrant, réfugié politique culturel, non politique, culturel, réfugié politique culturel en France, parce que Lampedusa Beach a été présenté par la Comédie Française le 2013 dans une lecture publique. Et après la sélection du comité de lecture de la Comédie Française, au moment de la lecture publique, un jury public a choisi Lampedusa Beach comme le meilleur texte de la, du festival. Parce que ensemble, Lampedusa Beach, on était lieu d'autres quatre tests internationaux. Et je suis restée choquée quand le public a choisi Lampedusa Beach pour deux motifs. Un, parce que c'est un monologue, et tout le monde considère le monologue les filles faibles du théâtre. Et après, parce qu'il parle d'immigration. Et je me souviens que c'était le temps où Sarkozy avait fermé la frontière entre la France et l'Italie. Ça n'a pas été un bon moment pour la question. Et je trouvais ça incroyable parce que finalement, le public a donné son opinion, a fait sa choix, et c'est-à-dire que le public a une émotion, a sa pensée, et n'est pas vrai que le public est seulement le public qui fait l'abonnement au théâtre, qui paye le spectacle, et devient une masse anonyme comme la masse des immigrants vers Lampedusa. Quand j'ai fait la première mise en scène à la Comédie Française au Studio Théâtre, c'est le metteur en scène Christian Benedetti qui l'a fait. Mais pendant les représentations, j'ai rencontré le public plusieurs fois, et toutes les fois, ils m'ont demandé d'écrire encore sur Lampedusa. S'il vous plaît, vous continuez à écrire. J'avais écrit quelques mois avant Lampedusa Snow. Alors la direction du théâtre a décidé de lire pendant les représentations Lampedusa Snow. Et encore, pendant le rencontre avec le public, il m'a demandé à manière sec. Il faut que vous allez écrire la trilogie de naufrage. Je me trouvais un petit peu embarrassée parce que j'ai eu la chance d'avoir à côté de moi la directrice de la Comédie Française, et elle m'a dit devant le public, si tu vas écrire la trilogie, nous allons la mettre en programme la prochaine saison, et c'est toi qui vas faire la mise en scène. Terrible. Terrible. Et j'ai fait la promesse au public, et je rentrais à Palerme tout de suite. J'avais à deux mois seulement pour écrire le texte, et après le donner à Manganaro pour la traduction, et aller à faire la mise en scène. Et voilà, et ne parle public la trilogie du naufrage. Di un'altra cosa, perché mi ha domandato il quattrième texte. Ma, e je n'ai pas eu le courage de continuare. Ma je pense che c'è la demanda d'avoir beaucoup d'écriture sur Lampedusa, c'est le besoin de connaître mieux les problèmes, mais surtout par un langage différent langage de la réalité. Et je trouve, toutes les fois que je me trouve avec le public pour le spectacle, l'écriture, il arrive quelque chose de très fort, un lien très fort entre l'actrice, la lecture, la parole et le public. Parce que le théâtre a la capacité de mettre au centre le problème humain pas les problèmes politiques, le préjugé, préjudice, même.
Préjugé.
Le préjugé, les problèmes sociaux. C'est l'être humain au centre, sans les conditions, sans le conditionnement, pas le conditionnement que nous connaissons jour par jour. Et quand ma ville, Palerme, a su que la trilogie est née en France. a senti le devoir de reprendre la trilogie à Palerme et j'ai commencé le même chemin à Palerme. Et j'ai déjà mis en scène Lampedusa Beach et Lampedusa Snow et je vais travailler à janvier sur Lampedusa Way. Et les trois pièces, ils passent aussi par le piccolo théâtre de Milano où déjà passé Lampedusa Beach, l'année prochaine Lampedusa Snow et après encore Lampedusa Way. C'est une expérience la trilogie du naufrage. C'est un chemin... c'est un moteur de rencontre, un moteur de réflexion, un moteur de quelquefois aussi d'amour, de fascination. Parce que je dis que je pense que le statut de l'immigrant, c'est le vrai statut de la création artistique. Et si nous aimions l'art, nous devons absolument aimer les immigrants. Parce que l'art va toujours chercher une frontière nouvelle, pas la frontière nouvelle, mais d'abattre surtout la frontière. Il va chercher un autre langage, pour se comprendre en manière universelle et va chercher de créer quelque chose qui nous donne un sens à notre vie.
Moi, je voulais te poser une question. Bon, je trouve ça, la dernière idée que tu viens de dire là sur ça me touche beaucoup. Je trouve ça très beau. Et tu parlais de cet autre langage qu'il faut trouver. Je voulais te demander par rapport à un choix d'écriture que tu fais. Il me semble, en tout cas, moi, je connais Lampedusa Beach et Lampedusa Snow, qu'on vient d'entendre magnifiquement. Mais à la fois, tu pars d'une situation réelle, très concrète, très très actuelle, avec toute son âpreté, sa dureté, et en même temps, à chaque fois, tu fais les situations de paroles que tu donnes à tes personnages sont des situations là un homme qui monte en haut tout en haut vers les sommets au milieu de la neige, dans Lampedusa Beach une femme qui coule tout au fond et qui parle en coulant. Tu délibérément tu romps avec tout réalisme. Et pourquoi tu fais là par exemple, comment est venue l'idée de la neige? C'est très très beau, c'est un autre océan, mais on se demande, c'est une idée qui est très très loin de la réalité. Donc,
pour moi, la réalité n'a pas
les limites.
Les limites réelles. Parce que c'est vrai que nous vivons dans la réalité. Mais qu'est-ce que c'est la réalité? Il faut casser la limite de la réalité. Mais il faut utiliser la réalité pour changer le plan de vision de ça que nous vivons. Et je trouve que c'est seulement les déplacements poétiques peuvent changer le niveau très bas, très normal de la réalité. Alors, quand nous allons acheter le pain, le pain. Nous disons, s'il vous plaît, un kilo de pain. Et, mais si nous disons, j'ai l'envie d'avoir du pain à regarder les étoiles, c'est une autre chose. Mais nous faisons aussi une action réelle. Mais c'est l'autre dimension qui n'existe pas. Mais c'est toi qui vas changer la situation. C'est toi qui, par la poésie, tu vas fonder une autre dimension de la réalité. Et c'est pour ça qu'il semble qu'il n'existe pas ça que j'écris à côté de la réalité. Mais ça dépend de la question que tu fais pour changer ça que tu es en train de vivre. Et pour moi, c'est la transformation de la réalité qui m'intéresse par l'écriture. Je ne sais pas si j'ai réussi à... Non, tu m'as demandé aussi sur la neige.
Oui,
c'est vrai. J'ai dit au début que c'est un fait divers. Parce que c'est vrai que les Africains sont arrivés sur les Alpes en attendant le permis de séjour. Et j'ai trouvé ça incroyable, mais très symbolique à raison de notre réalité, parce que nous vivons les conflits entre les blanches et les noirs. Et alors, je voulais que la Chauba est blanche. Je dis que Chauba doit être une actrice blanche. Et c'est pour ça que je dis que l'acteur de la Lampedusa, non, il doit être noir. Pour représenter les conflits entre les couleurs qui, dans notre tête, sont les couleurs du préjugé.
Toi, Sylvain, tu as choisi une forme non théâtrale pour ton livre. Alors, comment es-tu venu à ce sujet dans ton parcours d'écrivain? Et quelles sont les positions de tes personnages dans cet affrontement entre le Nord, le Sud, l'Afrique, l'Europe? Tu vas me donner un peu d'espoir, j'espère. En tout cas,
le livre dont j'avais prévu de parler, enfin dont on avait décidé que je parlerais, est très loin de toute cette actualité. C'est un livre qui se passe en Algérie. En Algérie aujourd'hui, et en fait, il y a quand même, il y a forcément des résonances avec malheureusement tout ce qu'on vient d'évoquer. Les personnages, c'est des personnages qui aujourd'hui sont âgés, donc la question de migrer, ils ont 70 ans plutôt, donc là, ils sont plutôt dans une immobilité, chacun sur une rive en fait. C'est inspiré en fait d'une histoire vraie, c'est-à-dire que ce que je raconte dans le livre, c'est que je retourne en fait en Algérie 50 ans après l'époque où mon grand-père y vivait, et il était fermier, donc il était colon au sens propre, c'est-à-dire que pas seulement français d'Algérie, mais en plus il avait de la terre, et il a très tard repris contact par une lettre avec un des anciens ouvriers de la ferme dont il était très ami. Et tout le livre se passe en fait en Algérie avec cet ouvrier qui s'appelle Bailly dans le livre et qui a à peu près 60... Oui, aujourd'hui, il en a 75, il vit toujours. Et par cette lettre que moi je découvre par hasard un jour où je rends visite à mon grand-père, j'apprends l'existence de cet homme qui a été autrefois un ami très très proche donc de mon grand-père, et je vais là-bas et tout le livre se passe en fait dans le camion de cet homme qui aujourd'hui encore son métier c'est d'acheter du sable dans une carrière de sable au petit matin et d'aller le vendre sur un chantier à une centaine de kilomètres de là, donc tous les jours il fait un petit bénéfice comme ça. Il fait ça tous les jours, dimanche compris. Et dans le camion, moi, je faisais les voyages avec lui, donc on partait à 3 ou 4 heures du matin pour être pas trop loin dans la file d'attente des camions. Il y en avait des centaines avant qui faisaient comme nous, quoi. Et après, à 8 heures, la carrière ouvrait et on partait. Et on passait en général 6 ou 7 heures comme ça de trajet avec un camion plein qui avançait à peine. Et il me racontait, il me parlait de tout ce passé qu'il avait eu avec mon grand-père, aussi de sa vie présente. Moi, ce que j'essaie de raconter dans le livre, en fait, c'est comment deux trajectoires se sont séparées un peu. Ces deux hommes qui apparemment étaient très liés à l'époque par un appétit de vie assez incroyable, une espèce de... quand même de façon de d'aimer la fête, d'aimer, alors c'était tous les deux visiblement des coureurs un peu incorrigibles, et moi le Bailly que j'ai vu m'a ébloui, c'est-à-dire que c'était un homme encore aujourd'hui complètement solaire. Et moi, mon grand-père, c'est des choses dont j'ai absolument jamais parlé avec lui. Aujourd'hui, il a des idées qui sont au contraire plutôt très très, comment dire, très amère et qui sont du côté clairement de la xénophobie et tout. Je le dis, voilà. Et c'était une immense surprise pour moi de découvrir qu'il avait eu cette amitié très 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 forte, en fait. Et du coup, j'ai l'impression que moi, en étant là-bas, j'avais vraiment l'impression qu'il y en avait un qui était resté du côté de la vie, de l'épanouissement, d'un rapport ouvert aux autres, et un qui, bon, du fait aussi de la blessure qui a été la sienne, du fait d'être parti, c'est lui l'exilé, là, en quelque sorte. Il a cette une espèce de tristesse qui n'a jamais été réparée. Et ce qui me bouleversait beaucoup, c'était de les voir chacun d'un côté de la Méditerranée. Ils habitent presque en face l'un de l'autre. Mon grand-père habite à une maison dont les fenêtres donnent sur la mer, donc il voit en face, je sais pas comment dire, il a l'autre rive en face tous les jours. Et bon, j'accentue ça évidemment dans le livre, mais le personnage du colon qui est parti vit les volets fermés tout le temps, en fait. Et c'est comme ça, c'est vrai, c'est comme ça. Quand je vais, on s'entend pas, on n'est pas très proche avec mon grand-père. Mais quand je vais là-bas, les volets sont fermés. Il y a une espèce de, à la fois de proximité de cette rive d'en face, et en même temps de peur de la regarder. Je sais pas, moi, peut-être que ce que je peux faire, c'est de lire. J'avais pensé, en fait, lire des passages, je me dis ce qui peut résonner un peu au regard de tout ce que là, tout ce qui vient de se passer. C'est des passages où on sent l'amitié très très forte qu'a eu entre les deux rives, et aussi cette espèce de contraste, enfin, entre un qui se replie et l'autre qui continue d'être dans une espèce de joie, parce que je crois qu'effectivement, s'il y a bien quelque chose qui serait catastrophique, ce serait de céder à cette peur et à ce repli, quoi, d'être. Donc voilà,
je vais lire le en fait le passage justement qui est raconté assez tard dans le livre, le passage où venant chez ce grand-père, en fait, le narrateur, donc en fait c'est moi, hein, dans la vraie vie, mais écoute cette lettre, en fait, elle lui est lue par le grand-père, voilà. Cher Luciano, avec ce point d'exclamation inaugural où je m'étais demandé s'il fallait reconnaître l'enthousiasme de l'un ou de l'autre, le rire malicieux de Bailly ou la joie de Nordine, le chanteur de Chabi. Il repense à tout ça, il connaît déjà ceux qui l'ont écrit, hein, ceux qui l'ont écrit de cette lettre, hein, donc voilà, c'est après coup. À moins qu'il n'ait décidé d'un commun accord de l'ajouter au dernier moment, la lettre terminée, signée tout en bas déjà. Cher Luciano, c'est tout? Tu es sûr? Tu ne veux pas qu'on essaie de trouver un début plus chaleureux? Avait demandé l'un d'eux. Tu ne veux pas qu'on mette un point d'exclamation par hasard, par exemple? Et l'autre avait aussitôt bondi en disant « Si, un point d'exclamation, tu as raison. » Et reprenant son bic, Bailly avait ajouté cette minuscule barre verticale qui changeait le ton de la lettre. « Cher Luciano, tu ne peux imaginer la joie que j'ai ressentie en recevant ton courrier. » Cette lettre, Malouchi me l'avait montrée un jour que je passais à l'improviste à Bandol. Il venait de la recevoir, en était encore tout ébranlé. Et j'avais à peine pris place en face de lui qu'il l'avait tirée de son enveloppe et s'était mis à me la lire. À moi qui ignorais tout, non seulement de l'homme qui s'adressait à lui dans la lettre, mais encore de ce qu'avait été sa vie là-bas pendant toutes ces années. Moi qui savais à peine qu'il s'était autrefois occupé d'une ferme, qui continue de rester insensible à sa nostalgie de cette époque. Cher Luciano, tu ne peux imaginer la joie que j'ai ressentie en recevant ton courrier. Et j'étais restée à l'écouter avec le même étonnement, la même stupeur, que si j'avais brusquement appris qu'il avait été dans une vie antérieure agent secret, ou chasseur de lions, ou explorateur de contrées polaires. Perplexe non seulement de découvrir que quelqu'un quelque part pouvait s'adresser à lui avec cette chaleur, mais encore d'apprendre qu'il s'était montré capable de ce geste, avait pris sur lui, 50 ans après, de tenter de renouer par cette lettre ce qui semblait s'être à jamais défait. Cher Luciano, tu ne peux imaginer la joie que j'ai ressentie en recevant ton courrier. Et l'auteur de la lettre s'était aussitôt mis à exister pour moi, comme s'il avait été là, dans la pièce, avec nous. Comme s'il était brusquement entré par hasard dans le salon pour demander son chemin, et avait à sa grande surprise aperçu Malouchi dans son... Luciano, pas possible! Qu'est-ce que tu fous là? En ouvrant de grands yeux et courant se jeter dans ses bras. Cher Luciano, et aussitôt ce point d'exclamation m'avait conquis. Quel est donc cet homme capable de ce cri de joie, de cette bonne humeur, m'étais-je demandé, et j'avais secrètement formé le vœu de le rencontrer un jour. Naturellement, je n'avais rien dit, mais étais contenté de saluer sincèrement la beauté de la lettre, mais dès cet instant où presque ma décision avait été prise. Je n'ai jamais oublié les moments passés ensemble, faits de sueur, de travail, mais aussi de franche camaraderie, malgré les événements de l'époque, poursuivait Bailly. Je n'ai pas oublié non plus la confiance que tu plaçais en moi, lorsque tu me remettais ton argent et même tes pistolets que tu me confiais pour te les cacher. Et là encore, cette histoire de pistolets, d'argent caché, m'avait paru infiniment rocambolesque, infiniment chargée d'attrait. Et je m'étais dit pourquoi pas sauter dans un bateau et aller retrouver cet homme tellement joyeux. Pourquoi pas attraper le premier ferry et pour ce point d'exclamation, ces pistolets cachés, m'en aller passer quelque temps avec ce vieil homme si manifestement doué d'une faculté d'enthousiasme comme il s'en rencontre peu dans la vie. J'espère qu'un jour on sera réunis pour se dire de vive voix ce qu'on ne peut écrire, se terminait la lettre. Votre ami et frère Bailly. Et comme il lisait les derniers mots, j'avais pu voir que l'émotion empêchait Malouchi de respirer. Naturellement, Bailly l'invitait longuement à revenir au village. Mais comment ferais-je pour parcourir toute cette route, avait dit Malouchi d'un ton résigné. Comment trouverais-je la force de retourner là-bas, moi qui suis tellement vieux maintenant, moi qui ne connais pas même l'Italie de mon père, pourtant toute proche, moi qui ne trouve même plus la force de sortir de cette pièce pour descendre ne serait-ce qu'en ville. Comment ferais-je pour trouver même l'envie de ce voyage, avait-il répété, après avoir regardé un long moment la mer par les baies du salon. Et plus résolu que jamais quant à moi, je m'étais dit « je pars ». À la première occasion, je suis parti et je débarque chez ce bailli sans prévenir. Ce n'est pas moi qui l'attends, mais c'est moi qui l'aura. J'avais bondi dans un train pour Marseille, m'étais embarqué sur le premier ferry, et 10 jours plus tard, je m'étais retrouvé dans son camion. Bailli, plus radieux encore que je n'aurais pu le rêver, son rire plus communicatif, plus solaire que tous les points d'exclamation auraient jamais pu le laisser imaginer. « Cher Bailli », disait la lettre qu'avait quant à lui écrite Malouchi 2 mois plus tôt. Cette lettre qui avait tout provoqué car il faut lui rendre cela. Je n'aurais jamais dû la voir, mais c'était la toute première chose que m'avait montré Bailly à mon arrivée là-bas. Un courrier jauni, gondolé de pluie, qui n'avait dû qu'à un miracle de parvenir à bon port, tant l'adresse indiquée sur l'enveloppe était ahurissante. Ferme Malouchi, Ain Lalem, département d'Oran. Exactement comme autrefois, comme si rien là-bas n'avait changé en 50 ans d'indépendance, dont Malouchi ne voulait de toute façon rien savoir. Comme si le pays intérieur auquel s'adressait la lettre était de toute façon immuable. Cher Bailly, je serais tellement heureux de savoir si tu vis toujours, si la ferme est toujours là, est toujours belle, est toujours telle qu'elle était alors, et si alentour rien n'a changé. Je serais tellement heureux que tu me dises que nous n'avons pas vieilli, que 50 ans ne sont pas passés, et que tout est toujours comme autrefois, que le temps n'existe pas. Voilà, ce qui était assez frappant là-bas, c'est qu'en fait, j'ai découvert en allant là-bas que, en fait, alors que mon grand-père qui ne parlait presque jamais de tout ça, les rares fois où il en avait parlé au moins à ma mère, à mes oncles et tantes, c'était toujours en disant que s'il avait réchappé de tout ça, c'est parce qu'il avait une parfaite lucidité de ce qui se passait, une lecture infaillible de tout. J'ai découvert en allant là-bas que Bailly était en fait le fils du chef du FLN pour tout le secteur. Et que tous les ouvriers de mon grand-père étaient FLN. Et que la ferme était un quartier général, en fait. C'était là que se passaient toutes les réunions secrètes, dans un ravin que Bailly, qui ne s'appelle pas Bailly, m'a montré. Et avec des histoires assez bouleversantes, notamment qu'un des ouvriers très proches aussi, lui aussi de mon grand-père, a été chargé au bout d'un moment, parce que mon grand-père partait toujours pas, de l'exécuter. Et cet ouvrier, donc il devait un peu prouver sa loyauté à la Révolution en le faisant, il s'est enfui pour pas le tuer, et il a été lui-même tué par l'armée française 2 jours plus tard. Et quand j'ai dit ça à mon grand-père, parce que je suis quand même après allé lui faire un petit peu un rapport de tout ça, enfin lui raconter, lui dire bon... Et je lui ai dit, tu sais que cet ouvrier, il s'en souvenait parfaitement, je lui ai dit, donc lui, il aurait dû te tuer, il est mort de ne pas t'avoir tué. Et il m'a dit, oui, je me souviens très bien, il m'a trahi, il a pris le maquis. Il était certain que cet ouvrier était au contraire parti, avait quitté la ferme pour aller rejoindre le... Donc voilà, il y avait tout cet arrière-plan, et en même temps une espèce d'extrême joie de ce Bailly tout le temps. Il parlait de tout ça, il me racontait tout ça en riant presque c'était renvoyé un peu, je pense, à des années très lointaines. Il y a eu beaucoup de choses en Algérie depuis des années, il y a eu toutes les années 90 qui, je pense, dans leur tête représentent un trauma beaucoup plus récent et plus vif. Mais donc lui parlait, c'était un peu ses souvenirs de jeunesse, quoi. Et il y a un moment où il a, dans un champ où une autre fois mon grand-père aussi a failli être enlevé, parce qu'en fait il savait pas, mais dans la forêt, là, juste à côté, il y avait tout un détachement de Mujahideen qui s'est demandé est-ce qu'on le tue, est-ce qu'on le tue pas. Finalement, ils l'ont pas tué. Et donc, on revient dans ce champ. Et là, quelqu'un a l'idée de téléphoner à mon grand-père. Donc, je vais juste lire ce passage, si vous voulez. Quelques jours plus tard, Bailly et moi étions revenus dans le champ, accompagnés cette fois de Nordine, Hassan et des cousins de Bailly. Et tous ensemble, nous avions marché jusqu'aux ruines de l'ancien douar. Et pourquoi on ne l'appellerait pas ? Avait brusquement dit quelqu'un. Qu'est-ce que tu racontes ? Avait répondu Bailly. Je ne plaisante pas, pourquoi on ne lui passerait pas un coup de fil à ce Malouchi après tout ? Qu'est-ce qui nous en empêche ? Puisque tu as son numéro, puisqu'il suffit de le composer sur les touches de ce fichu téléphone qui ne sert jamais à rien. Hassan avait aussitôt dégainé son portable et sans laisser le temps à Bailly, ne serait-ce que de rassembler ses esprits, il avait pianoté le numéro. La ligne s'était mise à sonner. Une voix d'homme âgé avait répondu à l'autre bout du fil et « Monsieur Malouchi ?» avait dit Bailly en se retenant d'éclater de rire. « Monsieur Malouchi, c'est vous ?»« C'est Bailly, vous me reconnaissez ?»« Bailly de Temouchent, oui Bailly. Tout va bien, Amdoulila. Et vous, monsieur Malouchi, ça va ?» Bailly était resté plusieurs secondes sans rien dire, comme si Malouchi, pas une seule seconde étonné au bout du fil, engageait déjà la conversation. Et qu'est-il déjà en train de lui raconter ? Nous étions-nous demandés presque vexés, avec Hassan et les autres. Comment se peut-il qu'il n'ait pas tout simplement le sifflet coupé, la parole empêchée pendant une bonne minute au moins ? Les mots de Malouchi avaient fait mouche en tout cas, car en les entendant, Bailly avait définitivement éclaté de rire cette fois. Nous l'avions regardé plaquer le parallélépipède de plastique contre son oreille, comme si c'était la pression qui devait continuer d'en faire sortir la voix de Malouchi assis dans son salon devant la baie de Bandol. Et ouvrant sa bouche édentée, il s'était mis à se tordre de rire. « Monsieur Malouchi, ça fait un bail, hein ? Et sinon, c'est vrai, ça va, tout va bien ? Hamdoulilah, ici aussi, ça va. Ça va très bien même. Mais dites-moi, monsieur Malouchi, vous avez vieilli, hein ?» Hilar de la surprise. Hilar de la surprise qui voulait qu'après 50 ans, il soit de nouveau là, non seulement à parler à son ancien patron, mais encore à lui rentrer sans préambule dans le gras, comme si pas une semaine n'avait passé, comme si la veille encore, ils avaient été toute la journée à se chamailler en larrons inséparables. « Si, vous avez vieilli, je peux vous le dire. Oh, si !» Écroulé de rire à son tour, Hassan s'était mis en tête de photographier Bailly, téléphone à l'oreille. Il avait dit à Nordine et aux autres de se serrer contre lui. Et maintenant, tout le monde était prêt. Bailly, regarde l'appareil, on te prend en photo, répétait Hassan. Bailly, regarde-nous, arrête de te tordre dans tous les sens. Regarde-nous, merde. Mais Bailly avait continué de se tenir le ventre. Et sur les photos, on peut le voir qui rit. Pas un cliché où il ne soit en train de rire et ne se fout éperdument de savoir si Hassan est en train d'appuyer sur le déclencheur ou si qui que ce soit cherche à lui parler. Il rit, se plie littéralement de rire quand tous les autres ont le visage concentré, sérieux, s'efforce de prendre un air digne des circonstances. « J'ai vu la photo que votre petit-fils a apportée et vous avez vieilli, je peux vous le dire. Oh oui, je peux vous le dire, à peine si je vous ai reconnu. » Il avait ri de toutes ses dents, c'est-à-dire à tout casser deux ou trois. « Et ah, vous êtes vieux maintenant, monsieur Malouchi », avait-il répété. « Vous pourrez lui demander ?» En voyant la photo, je lui ai dit mais il est où, Luciano ? Il est où ? Non, ce n'est pas vrai, non. C'est lui, ça ? Ah bon ? » À la découverte des photos, ce n'était pas le rire qu'il avait emporté, mais plutôt une sorte d'incrédulité, d'air accablé, apitoyé, qui avait failli me faire éclater de rire, moi, devant ce vieillard édenté, se prenant presque de compassion pour un autre, tout de même pas beaucoup plus amoché que lui. Parlant de lui au passé comme d'un mort, d'un homme fini, se sentant l'obligation de lui rendre justice et de rétablir une grandeur qu'à ses yeux, la photo non seulement ne montrait plus, mais ne pouvait pas même laisser imaginer. À l'époque, il était beau, tu sais. À l'époque, il avait de l'allure. Ah, ça oui, les femmes l'aimaient, il en imposait. Ma parole, vous êtes vieux. Et Malouchi, au bout du fil, qui avait probablement dû se sentir poignardé, anéanti malgré ses efforts pour n'en rien laisser paraître. Vous êtes vieux, je vous jure, on ne vous reconnaît plus du tout. Mon Dieu, ce que le temps passe, hein. Et sinon, ça va ? Le plus comique étant que deux mois plus tard, assis dans le salon de la villa, face à la mer, les tirages sur les genoux, ce devait être son tour. Là, sur la photo, c'est Bailly. Non, tu veux rire ? Regardant incrédule, le petit homme téléphone à l'oreille. Bailly, ce vieillard ? Mon Dieu ! Compatissant, ému, presque apitoyé, comme si l'autre n'avait plus été qu'une petite chose fragile, un pauvre être voué à se briser à la première étreinte. Mon Dieu, ce qu'il a vieilli. Avec une parfaite bonne foi, une parfaite absence de conscience de son propre délabrement, comme si lui, pendant toutes ces années, n'avait pas perdu la moitié de ses cheveux, ne s'était pas ratatiné de 10 centimètres, n'était pas lentement mais sûrement devenu à peu près sourd comme un pot. « Viens voir, Ima, arrive, devine qui est là sur la photo, devine. » Ma grand-mère s'était approchée, traînant les pieds, dos voûté. Tassez elle, non pas de 10, mais de 20 centimètres. Bailly, mon Dieu, le pauvre, avait-elle dit. Comme s'ils avaient été tous deux devant la photographie d'une ruine. Quand on pense comme il était beau, la prestance qu'il avait. Et ces mots qui m'avaient frappé, ce qu'il a l'air d'un petit ouvrier pauvre à présent.
Sylvain, comment te positionnes-tu en tant qu'écrivain par rapport à ceci ? C'est l'histoire contemporaine et présente tend à creuser la séparation entre le nord et le sud de la Méditerranée. C'est Patrick Bourchon qui, dans une interview, rappelait que pourtant la Méditerranée, ça a toujours été un lieu d'échange intense. Et l'histoire contemporaine et présente semble peu à peu creuser la séparation. Toi, par ton histoire, par tes parcours, tu ne cesses littérairement et puis même existentiellement de naviguer du nord au sud, du sud au nord. Et tu as publié plusieurs livres, écrit plusieurs livres qui témoignent de ce lien très fort. Et comment tu penses que la littérature, la création littéraire, un pouvoir, une fonction de maintenir un lien, une non-séparation ? Ou est-ce que tu penses que tout ceci est dérisoire ? Comment tu vois les choses ? Comment tu te situes par rapport à ça ?
Je dirais pas que c'est dérisoire. Je pense qu'un des grands mots qui sont la cause de tout ça, c'est la méconnaissance mutuelle. Enfin, il y a quand même un truc de mal se connaître et de pas suffisamment Je pense que tout ce qui est du côté de la du récit de nos histoires communes et respectives et de la mise en partage de tout ça, c'est quand même précieux pour la. Oui, parce que je pense que toute l'exclusion, tout ce qui provoque après quand même la tension, c'est parce qu'on a peur de l'autre. Quand on a peur de l'autre, c'est parce qu'on le connaît pas, en fait. Enfin, je veux dire, on a peur que de. Donc, je suis frappé en tout cas à chaque fois, quand je vois les quelques histoires que j'ai vécues dans des pays qui sont sur l'autre rive, enfin, de la Méditerranée, je suis frappé de toute façon par la continuité des deux mondes. Qu'on essaie, on voudrait essayer de l'empêcher artificiellement, en dressant des barrières, des trucs. En fait, il y a quelque chose d'éternel de cette communication et de cette plus qu'une. C'est-à-dire que c'est le même monde. Moi, je trouve quand je vois l'intensité des échanges Facebook entre ceux qui sont là. De toute façon, il y en a plein. Avant, j'ai beaucoup surtout habité au Sénégal. J'ai plein d'amis sénégalais qui sont en France. De toute façon, ceux qui sont sur Facebook au Sénégal, ceux qui sont sur Facebook en France, c'est une espèce de pont continu, d'échange. Il y a quelque chose de. Ça circule quand même beaucoup. Je trouve que c'est une richesse. Moi, je suis persuadé que c'est plutôt en allant vers une plus grande. Un renforcement des liens, une plus grande connaissance réciproque, enfin, de tout ça. Oui, c'est le même monde, et donc tout ce qui cherche à couper ça très artificiellement, ça fait juste ça exacerbe tout, enfin, de les peurs d'un côté, la frustration de l'autre. Enfin, je suis de toute façon, ça me frappe en fait à quel point la continuité est là, la diaspora c'est très beau aussi, je trouve, moi, le et nous aussi on sait quand même, moi quand je me connecte, enfin, je pratique peu les réseaux sociaux, mais vient un moment un Facebook d'une compagnie de théâtre, enfin, à laquelle je participais, j'ai retrouvé en une journée peut-être 100 personnes que je connaissais au Sénégal et tout, qui sont toutes joignables par ces réseaux sociaux en 3 secondes, quoi. Et y a, je trouve que ça c'est très beau, c'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. Donc ce qui me frappe souvent, en tout cas quand je vois le regard qu'on porte alors je peux parler du cas du Sénégal que je connais un peu plus, de ce qui est du Sénégal, mais j'ai l'impression aussi un peu de l'Algérie, c'est qu'on on connaît très mal, on a très peu idée. On en parle en fait, c'est banal de dire ça, mais on en parle que quand il y a un problème, que quand il y a l'épidémie d'Ebola ou un coup d'État ou un truc, et ça fait qu'on a une image mais vraiment totalement faussée de ça, qui ne peut provoquer qu'une peur ou un truc, et qui est très différente de ce qu'on vit quand on est là-bas, en fait. Donc moi je crois que voilà, je sais pas, la littérature à mon avis c'est le théâtre, c'est des choses qui peuvent un petit peu favoriser ce partage et tout ça. Je pense pas que c'est la clé de tout, mais c'est sûr qu'on a. C'est bien de mieux se connaître les uns les autres, ça je pense que oui. Voilà.
Mais, et c'est une question qui s'adresse aux trois d'une certaine manière, est-ce que vous pensez, pour reprendre une formule qui a été considérée comme éculée, comme vieillotte, la formule de Sartre, est-ce que vous pensez personnellement qu'il y a une responsabilité de l'écrivain à assumer par rapport à ce que l'on vit cette nuit à Lampedusa, est-ce qu'il y a une responsabilité de l'écrivain ou c'est une charge qui vous est étrangère et que Sartre est une leçon dépassée? Qu'est-ce que vous pensez chacun de ça?
C'est toi qui réponds.
Vous voulez dans l'ordre.
Mais je pense que l'écrivain a une responsabilité majeure que les politiciennes. Et parce que l'écrivain il parle à la mente, il parle à la pensée, il parle à l'émotion, il parle au corps, il parle aux moyens invisibles de la vie de chacun. Et alors l'écrivain peut changer la vie
et le point de vue et la vie de, du spectateur, du lecteur, et, dans un instant. Il peut avoir la capacité de changer dans un instant la mentalité et le point de vue, parce qu'il travaille sur la matière invisible de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il s'appelle création, qu'il s'appelle art, parce qu'elle est quelque chose que nous ne touchons pas, nous ne voyons pas pendant la journée, mais il devient quelque chose, et seulement par l'écriture et l'art, quelque chose de nouveau. Et alors, les politiciennes, on ne peut pas créer quelque chose de nouveau, non. Les politiciennes peuvent seulement organiser mieux la réalité et la société. Il peut donner les droits à tout le monde, il peut changer l'économie. Et c'est pour ça que je dis que quand il y a la crise, nous avons besoin d'avoir encore en plus des écrivains, des artistes, des penseurs, parce qu'il faut travailler surtout sur la matière invisible de notre réalité. Et c'est pour ça que senti beaucoup la responsabilité d'écrire sur Lampedusa. Pour moi, c'était un devoir.
L'artiste, le créateur, à mon sens, peut et doit interpeller là où la litanie des discours politiques, là où la litanie des chiffres ne nous fait plus rien, ne nous touche plus. Regardons comment on s'est habitué au décompte macabre des morts en Méditerranée, comment on s'est habitué à voir presque jour après jour des cadavres, y compris d'enfants, sur les rives européennes, et comment finalement aussi ce décompte funèbre qui continue de s'alourdir depuis hier, celui des morts à Paris, finalement crée un écran et ne nous met pas en marche vers la compréhension du monde de plus en plus violent et sordide qui se construit, et construction contre laquelle peut-être seul l'art dans toutes ses formes peut encore nous aider à nous réarmer au sens à réarmer nos cœurs, nos âmes, parce que là la tentation va être celle du pire, va être celle de la haine, va être celle de l'affrontement entre l'Orient, l'Occident, pour le dire vite. Et par les outils, par ce pas de côté qu'offre la littérature, qu'offre le théâtre, on peut aussi donner à voir autrement, mais donc aussi mieux parfois, ce qu'on ne finit par plus voir parce qu'on est pris dans le flot quotidien des informations, des chiffres. Voilà, donc il faut déchirer cet écran de fumée, même si parfois ça fait mal. Donc c'est ce que le triptyque du naufrage réussit pleinement, c'est ce que le roman Les Grands de Sylvain Prudhomme réussit également magistralement autour de cette imbrication entre l'histoire de la Guinée-Bissau, une histoire politique et une histoire intime, et une histoire aussi d'un groupe de musique, et comment sont abordés des questionnements très, très profonds sur la condition sociale aujourd'hui, les espoirs qu'on peut avoir. Et pour citer peut-être un livre qui fait le lien, encore plus récent, qui fait le lien entre nous tous et avec les événements funestes, le livre de Hakan Gündaï, qui s'appelle « Encore », et qui est un roman donc de cet auteur turc, et qui nous donne à lire sans sans nous dorloter, mais la violence qui se joue dans ces nouvelles îles frontières que sont devenues toutes les îles de la Méditerranée, pas seulement Lampedusa, mais aussi Lesbos, Chios, Kos, toutes ces îles qui ont fait rêver encore au XVIIIe siècle tant de voyageurs. Et dans ce livre, Hakan Gundai raconte comment un enfant, il a à peine 10 ans, finit par travailler au service de son oncle, passeur, et à devenir encore plus inhumain que les adultes qui eux-mêmes se sont glissés pour faire du fric, pour être encore plus barbares que les autres dans ce monde sordide qui prospère sur la misère, les guerres et les haines, hélas, de plus en plus réciproques. Voilà. Mais maintenant, c'est vous les autres. Moi, je veux transmettre votre
voix. Mélanie, j'aurais quand même une question, mais après, oui. Sylvain, d'abord.
Vas-y, pardon, excuse-moi.
Non, moi je rejoins absolument. Enfin, ouais, ce que vous dites sur le fait qu'en tout cas ça emprunte d'autres voies. C'est vrai que les choses restent souvent assez abstraites. Même là, ce qui s'est passé hier soir. Enfin, je veux dire, on est ici. Les choses sont à la fois, c'est très très violent et c'est. Enfin, ce qui est sûr, c'est que là. L'art, la littérature, le théâtre, ça passe par la voie du sensible, enfin, plus que de la... et donc, ça rend les choses... Moi, je pense qu'on a, du mal à se représenter ces choses-là. Enfin, et donc, c'est vrai que ça emprunte cette voie-là, la voie de rendre les choses concrètes. Après, je continue de croire aux politiques au singulier, hein, j'ai pas dit je sais pas les hommes politiques, je sais pas, mais en tout cas des grandes décisions politiques peuvent aussi déplacer énormément de choses dans les mentalités, je pense que sur des questions comme l'immigration ou les réfugiés, là je pense que des décisions très courageuses qui ne sont pas tellement prises dans notre pays, par exemple, elles auraient pu... elles peuvent déplacer des choses dans la façon dont tout le monde se représente le problème. Le fait qu'il y ait une espèce d'unanimité le cœur politique, que tout le monde tienne le même discours de la peur, pratiquement, je pense que ça fait exister la peur davantage, ça rend toute place pour autre chose que de la peur de plus en plus réduite, quoi. Et à l'inverse, je suis sûr que, parce qu'on n'est jamais très fier dans la peur, je pense qu'on n'est pas très, pour tous ceux qui, je sais pas comment dire, on peut pas être très longtemps satisfait de soi en défendant le repli, la clôture. Je pense qu'il y a un truc de quand je vois par exemple ce qu'ont fait les Allemands, avec un courage incroyable quand même d'accueillir autant de monde, même si évidemment là ça y est, ils sont en train un petit peu ils se rendent compte que ça fait beaucoup de monde, mais ils en seront fiers toujours, ils en seront fiers dans toute l'histoire, et ça fonde aussi une fierté, un sentiment de soi-même et de ce que peut être le pays qui aura des conséquences après encore. Et ça, je pense que quand même des grandes, comme quand on a aboli la peine de mort, tout le monde, enfin, c'était contre la vie de contre un sondage. Et après, on est fiers, nous tous, que, enfin, je veux dire, je pense que quand même ça déplace beaucoup de choses dans les têtes. Et si on avait une grande décision courageuse comme ça, je pense qu'on aurait été nombreux à être fiers. Et beaucoup de gens qui finalement peut-être basculent après du côté de la peur. Ce serait dit, ah oui, en fait, nous, on fait ça, nous, les Français, on est en train d'être capables de cette hospitalité, comme je pense se le disent beaucoup d'Allemands. Donc, je crois quand même beaucoup que... En tout cas, je crois quand même encore à ça. J'aurais bien aimé qu'il y ait ça dans notre pays, ça, c'est sûr. Voilà. La décision allemande, tu veux dire Bien sûr.
La photo de l'enfant.
Sur l'île.
Ah, la photo de l'enfant.
Ouais. Oui, qui l'a rendu les choses très concrètes, tout d'un coup.
Il y a peut-être quand même une différence extrêmement importante qu'il faut rappeler, c'est que ce genre de photo, bon, je ne critique pas la chose, mais joue sur l'émotion instantanée des gens. Par contre, ce qu'essaient de dire les uns et les autres, c'est que, les unes et les autres, c'est que l'écriture, la littérature, permet un travail sur les représentations que l'on a de l'autre. un déplacement des représentations, ce qui a une efficacité probablement infiniment supérieure à l'émotion instantanée d'une photo, ce qui ne nie pas le fait qu'une photo peut modifier quelque chose. Mais l'écriture comme construction d'une représentation, enfin, j'ai cru comprendre que c'est ce que vous disiez, produit vraiment un déplacement, un travail sur les représentations que les gens peuvent avoir, quoi. Mélanie, une question plus personnelle. Tu as peut-être répondu à cela tout à l'heure, mais j'aimerais que tu précises. C'est toi qui nous as fait connaître la trilogie de Lampedusa à la grâce, et c'est infiniment heureux. Tu es historienne, spécialiste notamment de l'histoire de la musique, de l'opéra à Naples en particulier. La Sicile n'est pas très loin. Tu es comédienne aussi. Et tu as fourni autour de Lampedusa, du coup, un énorme travail quand même pour parvenir à nous faire entendre ici ou ailleurs ces magnifiques textes. Et c'est un travail qui est à côté, du coup, de ce que tu fais principalement au quotidien. Qu'est-ce qui t'a poussé à cela, quoi, à ce travail-là, au fond?
Question très personnelle. Ben, avant d'être historienne, mon cheminement, il est aussi humain et politique. Et mes choix de comédienne sont aussi liés au souhait de pouvoir donner à entendre des textes, qui plus est si ces textes donnent enfin une parole à ceux qu'on ne voit plus, à ceux qu'on n'entend plus, à ceux dont on veut qu'on veut ignorer, à ces sans-voix que sont les migrants. Par ailleurs, j'ai eu un long cheminement donc de militante qui m'a amenée à travailler avec des associations de soutien. À l'époque, on disait les sans-papiers. Il y a d'autres scènes qui se sont jouées à Paris sur ce terrain-là. Et quand j'ai découvert Lampedusa Beach, par le biais de Jean-Paul Manganaro, qui était en train de traduire le texte, et je l'ai découvert à Lille, où en fait mes parcours d'historienne et de comédienne ont conflué ainsi par ce texte. Donc c'était une évidence pour moi de faire entendre ce texte, et je continue à le porter. Alors il y a la Comédie française, évidemment, mais comme j'aime à dire, étant moi-même lyonnaise, il n'y a pas que la capitale, et donc il est important aussi que des textes aussi politiques, qui prennent aussi les spectateurs au sérieux et qui n'ont pas peur de confronter des thèmes très sérieux à des univers aussi fantastiques, ce que tu soulevais tout à l'heure, soient entendus, lus à Cherbourg, comme j'ai pu le faire avec le soutien d'Amnesty International, à Toulouse, dans le cadre de la novella, à Lille, ici même, bien sûr, et comme j'espère, on pourra le faire l'année prochaine à Berlin, puisque on espère aussi que Lampedusa Beach sera prochainement traduit en allemand. Voilà, tout est politique, n'est-ce pas?
Lina, tu voudrais ajouter quelque chose, peut-être? Oui.
Ah oui, j'aimerais dire quelque chose sur les mots politiques. Parce que quand je parle de... quand elle dit politique, c'est la politique qui arrive chez nous par la civilisation grecque. C'est le mot qui a encore la valeur grecque. Et quand avant, j'ai dit que l'écrivaine a une responsabilité plus grande que les politiciennes. C'est les politiciennes que nous connaissons, que nous élégions.
Que nous lisons.
Que nous élisons. Et nous avons qu'un problème nous arrive des politiciennes, c'est une autre chose. Parce que le mot politique, c'est un mot qui peut être à côté, pour moi, du mot poésie. Poésie, parce que quand je parle des paroles poétiques, parce que la parole est poétique, je dis ça parce que en grec, la poésie, il dérive du mot poiein, c'est-à-dire faire. Alors, faire poésie.
la réponse.
Nous disons faire poésie. Je ne sais pas si vous. En Italie, souvent, nous disons faire poésie. Et c'est l'action. L'action qui crée quelque chose de nouveau, qui n'existait pas avant. Et c'est pour ça que pour moi, la parole poétique, de la narration, du théâtre, de la représentation artistique, c'est toujours une parole politique. Parce qu'il arrive à créer quelque chose qui n'existait pas avant, les créateurs, l'artiste. Alors, quand je dis que, plusieurs fois, je dis il faut faire poésie, signifie qu'il faut faire agir, surtout aujourd'hui, que nous vivons le massacre. Tout le monde aujourd'hui a quelque chose qui a changé notre vie, notre pensée. Et nous sommes là, mais je pense que nous avons besoin de faire poésie, 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 poésie.
Est-ce qu'en regard de ce que tu as dit tout à l'heure, qui était, me semble-t-il, très fort, faire poésie, c'est au fond faire l'expérience intérieure du migrant?
Oui.
Par la langue?
Oui. Je l'ai dit avant, parce que j'ai dit avant que le statut des migrants, c'est le statut de l'artiste. Parce que le migrant, aujourd'hui, c'est l'unique qui est capable de faire poésie, c'est-à-dire changer sa vie à cause de mourir. Nous, occidentaux, nous n'avons pas plus la capacité d'aller chercher en mettant à risque notre vie. Nous voyageons, nous sommes touristes quand nous voyageons, nous sommes des employés, nous allons en train, en avion. Mais nous ne voyageons pas à la recherche vraiment de quelque chose au-delà de notre réalité, parce que nous sommes reclus, comme je dis, enfermés dans notre bien-être. Nous considérons bien-être notre richesse qui fait seulement qui est surtout matériel. Nous allons au grand marché et nous regardons sans marque de papier hygiénique. Nous sommes très contents parce que nous avons la possibilité de choisir. Mais choisir que cosa? Et alors, c'est vrai que nous sommes là à défendre les papiers, les 100 marques de papier hygiénique. Au contraire, les immigrants, ils affrontent la mer, la tempête, pour aller chercher, à changer la vie, pour aller chercher quelque chose qui change sa vie. Et, j'ai oublié au début de ta question. Je t'ai répondu.
Lui
ou
aussi,
non?
Lui aussi, là, oui.
Ah oui,
t'as répondu.
Sylvain, tu as quelque chose à ajouter éventuellement par rapport à cela? On peut peut-être en rester là pour cet échange. Hein, un peu accablé, c'est moins qu'on puisse dire, par ce qui se passe. On tenait à faire cet après-midi, mais en même temps, ne pas forcément suivre tous les temps prévus qui nous menaient normalement jusqu'à 19h. Ce n'est pas une obligation. Par contre, ce dont on est convenu, c'est qu'on termine. C'est peut-être le moment.
Oui, je vais chercher le petit livre jaune.
Par une lecture d'un texte qui a... Vous ont sûrement entendu au banquet d'été, mais je crois que c'est important de le réentendre aujourd'hui. C'est un passage donc de prendre date, comme je le disais tout à l'heure, de Mathieu Riboulet et Patrick Boucheron, qui est une espèce de journal écrit quelques mois après, donc du vécu par l'un et l'autre des événements de janvier en France. Et donc Mélanie va lire la fin du texte, qui a une force, hélas, annonciatrice, c'est-à-dire prendre date en janvier, c'était aussi se préparer à ce qui s'est passé cette nuit. Et ce qui se passera peut-être encore demain prochainement. Voilà, donc Mélanie.
Extrait du chapitre La continuation du pire, 14 janvier 2015. Ensemble, unis pour la démocratie. Voici aussi ce que l'on a entendu dans le cortège du 11 janvier. Ce slogan m'a laissé perplexe. En quoi s'agissait-il de défendre la démocratie? N'était-ce pas plutôt les valeurs de la République qu'il s'agissait de réarmer en reprenant un à un tous les mots qu'on nous avait volés? Et dans ce cas, pourquoi celui de République ne passait-il pas la barrière des dents serrées? Qu'est-ce qui demeurait rentré en lui pour qu'on veuille se masser sur la place qui la nomme, la place de la République, sans vouloir la dire? C'est le 14 janvier que j'ai compris, devant l'incompréhension que suscitait la une de Charlie Hebdo. Par démocratie, il fallait entendre ici non pas un régime, un gouvernement ou une représentation politique, mais bien une forme de société, et plus particulièrement une forme désirable de vie en société. Voilà où, pour ma part, je pouvais sans peine me retrouver. On peut chercher à comprendre ce que les terroristes haïssent le plus en nous. Mais dès lors que le massacre a eu lieu, on est aussi en droit de définir seul ce que nous sommes prêts à défendre, ce à quoi nous tenons vraiment, ce qu'il nous importe le plus de définir comme nous appartenant en propre. Tel est le sens politique de ces journées et il engage l'idée même de liberté publique. Pour ma part, je peux dire sans grande difficulté ceci. Un endroit où des flics à vélo sont chargés de défendre les dessinateurs d'un journal satirique qui moque tous les pouvoirs, pendant que des juifs font paisiblement faire leur commission dans une épicerie cachère. Cet endroit est un endroit où je veux vivre. Et puisque cette scénette urbaine s'est transformée en scène de guerre, on est en droit d'ajouter « Ils sont morts et nous voulons rester vivants. » Au matin du 14 janvier 2015, je n'ai vu la couverture de Charlie Hebdo dans aucun des kiosques où je la cherchais. Tous avaient été dévalisés. Plus de Charlie, livraison demain, partout des affichettes. Il y avait même à la gare de l'Est une petite file de gens qui s'étaient sagement formés pour inscrire leur nom sur un cahier afin de prendre rang dans une liste d'attente, réservant leur place pour le lendemain. La couverture, je la vis dans les locaux de Libération, où la rédaction des survivants avait trouvé refuge, et où l'on accédait après avoir passé plusieurs contrôles d'hommes en armes, zigzagant entre des checkpoints en chicane. J'y avais rendez-vous après bien des hésitations pour répondre à un entretien sur les événements des jours précédents. Sur le moment, en parler dans ces lieux me soulageait plutôt. C'est quelques jours plus tard, en relisant la transcription, que j'eus vraiment honte, prenant la mesure de ma vanité et de mon erreur. J'obtins avec de plates excuses l'annulation de sa parution. Deux mois plus tard, Wajdi Mouawad me fit comprendre ce qui peuplait cette honte. Il dit : Lorsque surviennent de tels événements, souffle aussitôt le vent violent des opinions. Elles sont comme le nuage de sauterelles obscurcissant le ciel. Tant qu'elles sont là, il n'y a rien à faire, rien à dire, sinon rentrer la tête dans les épaules et attendre qu'elle passe. Mais quand elles partent, le vacarme assourdissant qu'aucune parole ne pouvait percer fait place à un grand silence. Et c'est alors que les choses deviennent réellement dangereuses. Nous risquons aujourd'hui d'entrer dans ce grand silence. De la stridulation des sauterelles, il n'y a plus rien à retenir. Songez par exemple à ce flot de paroles, au mieux inutiles, au pire hystériques, sur les incidents qui ont accompagné la minute de silence imposée dans les établissements scolaires le 8 janvier. À les relire aujourd'hui, on est gêné par tant d'approximations, d'incompréhensions et d'ignorances. Toutes, ou presque, passaient consciencieusement à côté des problèmes actuels de l'enseignement, bien réels et bien plus inquiétants en vérité, que ceux que l'on imagine pour leur faire écran. Problèmes dont on peut prendre la mesure en lisant aujourd'hui, notamment sur les forums qui les rassemblent, les analyses et les récits de tous les enseignants qui ont tenté de faire face, généralement en improvisant des réponses aux questions que leur posaient leurs élèves, réponses qui, quoique diverses, avaient pour seul point commun de prendre le contre-pied des instructions officielles qu'on leur donnait. Mais il faut pour cela une patience et une bonne volonté dont sont dépourvus les commentateurs de l'immédiateté. Vous les avez entendus s'empresser de négocier leur place dans le nuage des sauterelles, horlogers des menus déplacements, virtuoses des subtiles variations. Chacun retrouvant d'instinct à se positionner là où les assignaient leurs préjugés idéologiques. Vous les entendrez encore poursuivre leur labeur, ici poussant leur avantage ou cultivant leurs petites différences. Là, cherchant à fourguer leur cam partout en tenant l'air de « je vous l'avais bien dit ». Ne pas écouter les prophètes de malheur, dédaigner toute parole qui prétendrait, ne serait-ce que furtivement, trouver dans la situation présente la confirmation d'une conviction précédemment formulée. Telle devrait être la règle de conduite minimale de tout débat collectif. Sauf à considérer qu'il est juste et bon que le chien aboie quand la caravane passe. Car le temps passe, et avec lui, l'oubli. Écrire aujourd'hui sur ces journées consiste à tenter péniblement de le retenir, de retenir l'oubli. C'est difficile et décourageant, comme de gravir à contre-pente une rampe qui s'élèverait à mesure qu'on la parcourt. Pourquoi s'imposer un tel effort ? Quand tout nous pousse au contraire à oublier, à passer à autre chose, à admettre qu'il n'y a que des mots beaux et nobles pour former cette expression, la vie reprend ses droits. Certainement pas, en tout cas, un quelconque devoir de mémoire. Un collectif s'est constitué pour protéger les graffitis, inscriptions, papiers collés, objets divers qui ont été déposés autour de la statue de la place de la République depuis l'après-midi du 7 janvier. Ce collectif dénonce régulièrement le saccage du mémorial. Mais cela ne peut évidemment pas l'être. Au bout de quelques jours déjà, les fleurs fanaient, la pluie détrempait les dessins des enfants, les messages s'estompaient, d'autres les remplaçaient. Par exemple, tiens, depuis quelques jours, je suis Rémi Fraisse. Dès lors, ce que l'on peut lire sur le piédestal du monument des frères Maurice n'est pas l'inscription de l'émotion de ces jours, mais le temps qui passe sur elle, l'émousse ou la ravive, la trahit, la transforme. Ce temps n'a assurément pas la même texture pour nous. Voici quelques jours s'exprimait pour la première fois Loïc Libert, que Mohamed Merah avait laissé pour mort à Montauban le 15 mars 2012 et qui n'a jamais vu le visage de celui qui lui tirait dans le dos. Tétraplégique, il parvenait enfin, disait-il, à force de rééducation, à bouger un peu la tête. L'hôtel de ville de Paris est encore crêpé de noir, arborant comme une vieille dame indigne le ruban « Je suis Charlie ». Mais elle a déjà quitté ses habits de grand deuil. Quant à la statue de la République, elle vient de se couvrir de quelques drapeaux tunisiens. 22 morts au musée du Bardo à Tunis, le 18 mars. Ce n'est donc pas seulement contre les antiquités qu'ils en ont, mais contre l'idée qu'on puisse les regarder et avec elles, voir ailleurs, voir avant, voir sans eux. Le surlendemain, 20 mars, l'organisation terroriste dite État islamique, qu'on appelle aussi Daesh pour lui dénier le nom d'État, revendiqué un attentat dans deux mosquées de Sanaa, faisant 142 morts. Y aura-t-il des drapeaux yéménites, place de la République ? En tout cas, le programme se poursuit. Cette année, Mein Kampf tombe dans le domaine public. Allez y voir. Généralement, les grands criminels de l'histoire ne surprennent pas leur monde. Ils annoncent ce qu'ils vont faire à l'avance, avec franchise. C'est le cas pour les djihadistes d'aujourd'hui. Mais il arrive aussi, et il arrive souvent, que les dangers annoncés ne soient pas ceux qui font le plus de mal, et que c'est en croyant les prévenir qu'on précipite le pire. Nous y sommes. La catastrophe à venir ne sera pas ce qui surgit à la fin, mais ce qui se poursuit lentement, continuellement d'un même mouvement, sans qu'on n'y trouve à redire. Comment se résoudre à cette continuation catastrophique ? Est-ce une vie que d'attendre ainsi docilement le nouveau scandale financier, la nouvelle victoire du Front National, le nouveau best-seller prenant la guerre civile, la nouvelle école juive mitraillée, la nouvelle vidéo de décapitation ? Du 7 au 11 janvier, les représentants politiques de la France ont, peu ou prou, porté une parole publique que l'on aurait pu croire plus irrémédiablement dégradée. Cela ne tient pas lieu de politique, mais cela la rend possible. Et voyez depuis comme il se relâche. C'est que nous ne les serrons plus d'assez près, reprenant aussitôt la sale habitude de les laisser faire. Il vaudrait mieux éviter désormais, car le temps presse. Ce qu'on a fait ici, c'est occuper un peu, faute de mieux, cet entretien incertain qui s'étire entre la stupéfaction de l'événement et le recul de l'histoire. Parce qu'il est des situations où la précipitation et l'attente conjuguent leurs effets pour créer le danger. L'occuper un peu, en y jetant des mots, en l'inscrivant quelque part, des noms et des dates, rien de plus. On sait faire. C'est vieux comme les tombeaux. S'occuper des morts et calmer les vivants. Pour le reste, ça commence. Tout est à refaire. Prendre date.
Merci beaucoup, beaucoup, Mélanie Traversier. Merci, Lina Prosa. Merci, Sylvain Prudhomme. Merci de vos présences à tous. Je propose, on en reste là. Voilà. Merci.